je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, comme d'habitude, ce matin, tu nous as parlé à travers les témoignages et les partages des frères et sœurs. Tu nous as montré en toute situation, tu es souverain, tu prends contrôle de toutes choses. Nous t'avons prié pour nos frères et sœurs qui sont absents ce matin. Et nous te prions pour que notre Église tienne jusqu'au bout, acceptant avec joie de porter la croix, pour arriver à l'objectif ultime, celui de te rejoindre quand tu viendras chercher ton épouse. L'Église sainte purifie. Je te remercie par avance aussi pour cette nourriture que je vais pouvoir partager avec mes frères et sœurs, parce que tu as commencé à me parler, moi le premier, en étudiant ta parole depuis hier. Eh bien Seigneur, je te prie que ce qui va être partagé, il ne reste que ce qui vient de toi dans le cœur de mes frères et sœurs. Que tu puisses balayer tout ce qui peut venir de l'homme et ne garder que ce qui vient de toi. Merci pour toutes choses et que ta volonté se fasse. Amen.
Amen.
Nous continuons l'étude, l'exploration, le voyage avec Marc et son évangile. Et jusqu'à maintenant, nous avons évoqué les premiers versets du chapitre 1, donc on y est toujours. Et je vais faire la suite de ce que notre frère Toby a fait la dernière fois, en évoquant le chapitre 1, versets 4 à 8. Donc je vais faire la suite, je vais continuer pour la suite. Et normalement, la suite nous emmène vers les versets 9 à 11. Donc je vais lire avec vous ces versets-là. L'évangile de Marc, chapitre 1, versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors j'ai commencé hier à préparer le message d'aujourd'hui, parce que je n'avais... Je dirais, non, pas question de temps, mais il n'y avait pas ce désir de préparer le message avant. Mais hier, je me suis mis. Et au fur et à mesure que j'avançais dans l'étude, je me suis rendu compte que je m'éloignais. Et quand j'ai terminé, j'ai dit à Viviane, mais j'ai l'impression en fait que ce que je voulais faire, en fait, ce n'est pas ce qui était fait. Du coup, dans l'étude, dans tout ce que j'ai fait, je me suis contenté que du début. Et c'est pourquoi, au lieu de vous présenter les deux versets, enfin, les versets 9, 10 et 11, en fait, tout ce que je vais partager avec vous, c'est cette phrase. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Que j'ai terminé mon écriture. En fait, j'avais déjà presque 8, 9, 10 pages. Il fallait s'arrêter. Et c'est pourquoi c'est ce que je vais partager avec vous. Du coup, dans ce passage, je n'évoquerai le baptême et la colombe et la voix qui vient du ciel, du Père, pour s'adresser à son Fils, pour dire « C'est mon Fils bien-aimé ». Je n'évoquerai ça que la prochaine fois. Nous nous contenterons aujourd'hui seulement de ce passage, de cette phrase. « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. » Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Il y a un passage dans la Bible qui m'accompagne. C'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et Dorothée a lu la deuxième partie. Et moi, je vais lire juste avant. Où l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et lui dit « Toute écriture, toute parole est inspirée de Dieu ». C'est-à-dire quand on prend la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout est inspiré. En fait, il ne faut rien négliger. Je dirais même pas une virgule. On pourrait dire, tout mot, toute phrase, toute lettre, tout signe dans la parole de Dieu est inspiré de Dieu. Ce qui veut dire que la Bible, elle ne s'adresse pas seulement à nos têtes, c'est un message qui ne s'adresse pas seulement aux historiens, aux gens, mais aussi c'est un message spirituel qui s'adresse à la vie spirituelle parce que nous sommes à la fois âme, corps et esprit. Donc, quand il s'agit, par exemple, des mots comme le Jourdain, ben, non seulement il faut expliquer ce que c'est, comme un lieu, une rivière, mais il faut savoir aussi quel est le sens spirituel du mot Jourdain. Quand la Bible parle de la montagne, quel est le sens spirituel de la montagne? Quand Adam s'appelle Adam, quel est le sens spirituel? Tout a un sens spirituel. Et c'est ça, je pense, que nous avons besoin, au-delà du savoir, de la connaissance, quel est l'enseignement spirituel pour l'Église? Parce que nous sommes aussi et surtout des êtres spirituels et l'Église est spirituelle. Donc il faut un langage spirituel. Ce passage-là, on le trouve dans les quatre évangiles. Donc le fait que les quatre évangiles ont laissé un témoignage du baptême de Jésus est une évidence que c'était un événement de grande importance. Raison de plus qu'il ne faut pas négliger le baptême. Dans les quatre évangiles, on trouve le baptême. Alors, cette phrase nous montre en fait le parcours de Jésus. Il est parti de Nazareth, en la région de Galilée, dans le nord, et il est parti vers la Judée, vers le sud, en s'approchant de Jérusalem. C'est ce qu'il nous est dit. Si je prends le parcours du Seigneur, il est parti de Nazareth et il partait vers la Jourdain, qui était à 8 km de Jéricho et à 28 km de Jérusalem. Et on sait que c'est à Jérusalem, d'abord Jérusalem, il sera arrêté et crucifié. Par le fait seulement que le Seigneur nous dise qu'il est parti de Nazareth pour aller se faire baptiser en s'approchant de Jérusalem, il nous a déjà donné le cheminement du chrétien. Jésus est parti de Nazareth pour se faire baptiser par Jean le Baptiste, dans le Jourdain, en route vers sa première apparition publique, avec laquelle il va commencer sa mission comme Messie. Un Messie assez particulier, puisqu'il est aussi le Fils de Dieu. Et il suffit de lire le prologue de Marc, le début de son évangile, on lit « Commencement de la bonne nouvelle, commencement de l'évangile » de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Seigneur était à Nazareth, dans une région du nord d'Israël. Nazareth. La Galilée, qui est souvent méprisée des habitants de Jérusalem. La Galilée est souvent méprisée des habitants de Jérusalem. D'après le Talmud, c'est-à-dire en fait l'écrit qui a remis en fait par écrit cette tradition orale des Juifs, les habitants de cette petite bourgade, Nazareth, avaient le sang chaud. Malgré leur gentillesse naturelle, ils ne montraient aucune sympathie pour les pharisiens rigides de Jérusalem. Ces derniers les considéraient comme stupides et enténébrés. Voilà la région de la Galilée, de laquelle le Seigneur est parti pour se faire baptiser. J'ai cherché un peu l'évolution du sens du mot Galilée, parce que ça aussi, ça a un sens pour nous, la Galilée. Et je me suis rendu compte que ce mot dit Galile en hébreu est très ancien et provient du début de la conquête de Canaan par Josué, et peut-être même bien avant. Galile vient du racine hébraïque qui signifie rouler. Il désignait un cercle. C'est en quelque sorte tourner en rond. Cette expression qui a évolué en Galilée fut reprise par les auteurs du livre des Maccabées pour désigner la région des étrangers en opposition à la Judée. Du coup, le Seigneur est parti d'une région où les gens tournent en rond, où ils sont considérés comme des étrangers. En fait, ils ne sont rien. Dans la région de Galilée, se présente avec nous un message spirituel, celui d'un monde qui tourne en rond et qui est dans lequel nous nous sentons en tant qu'Église étrangers. Dans cette région, il y a la ville, ou la bourgade, appelons ça comme on veut, de Nazareth, dont Nathanaël dit, j'ai mis devant vous, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? Et pourtant, c'est de là que le Seigneur est parti. N'est-ce pas un enseignement pour nous, encore une fois ? En hébreu, Nazareth signifie le rejetant ou le surgeant. Et on sait que le rejetant, ce qui pousse au pied des arbres, ce qui pousse sur les troncs, ça n'a pas d'importance. Des fois, on le coupe, on l'enlève. Il ne sent rien. C'est pourtant bien là que va commencer directement l'histoire du salut du monde, par l'incarnation du Fils de Dieu lui-même dans le sein d'une jeune vierge, Marie, qui veut dire aussi la princesse. Dans là où il n'y a rien, il y a une royauté. Aux yeux du monde, quand c'est rien, pour Dieu, c'est beaucoup et c'est grand. C'est bien en effet là, en Galilée, qu'eut lieu l'incarnation de Jésus, que se déroula la majeure partie de son enfance et de son adolescence. Et c'est là que Jésus décida de partir pour se faire baptiser. N'est-ce pas notre propre cheminement avant d'aller au baptême ? Nous ne sommes pas partis d'un désert où nous avons rencontré le Seigneur et nous sommes partis vers le baptême. N'est-ce pas un message d'humilité du Seigneur qui sera la marque de tout son ministère terrestre ? Il se fait connaître en premier dans un endroit qui semble méprisé, rejeté, étranger. Dans ce milieu, sa place est au milieu de celles et ceux qui ne sont rien aux yeux du monde, y compris aux yeux des religieux. Cet endroit correspond certainement à nos propres milieux, duquel le Seigneur est venu nous tirer pour nous mettre sur le chemin du salut et de la rédemption. Le Seigneur s'est identifié à chacun de nous par cette simple information. Il est parti de Nazareth pour aller vers le Jourdain. Nous avons entendu plusieurs témoignages dans notre assemblée et surtout les dimanches, les premiers dimanches des mois. Et le point commun dans tous ces témoignages est celui de la prison dans laquelle nous étions avant de rencontrer le Seigneur. Dans cette prison, le Seigneur était avec nous. Il nous a délivrés pour nous mettre sur le chemin de la victoire et de la libération. Par cette simple décision, par cette simple information dans le début de l'évangile de Marc, le Seigneur nous montre qu'il est dynamique et en perpétuel mouvement. Il nous donne même le sens de sa déclaration « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La difficulté du moment, peut-être nous rencontrons chacun de nous des difficultés du moment. La dureté du contexte dans lequel nous vivons doit nous mettre en mouvement, en Christ, vers quelque chose de merveilleux, comme le chemin du Seigneur de Nazareth vers le Jourdain. Celui du dépouillement, ce chemin est un chemin du dépouillement, de mort à soi-même, de la véritable liberté en Christ notre Seigneur. Ça me rappelle le verset dans les Actes des Apôtres, Actes 17, verset 28. « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Par cette simple information, le Seigneur donne une interprétation spirituelle de la décision des Hébreux de quitter l'Égypte, de se libérer de l'esclavage et de se mettre en route vers la terre promise, symbole de la rencontre et de la communion entre Dieu et son peuple. C'est le cheminement de chacun de nous, mes frères et sœurs. C'est le cheminement de l'Église, c'est le message spirituel. Cette terre promise, pour nous, est Christ. Le peuple hébreu a traversé le désert, image de notre propre désert intérieur. Le peuple hébreu a assisté comme spectateur à l'intervention de Dieu en leur ouvrant le chemin au milieu de la mer Rouge, symbole de la croix de notre Seigneur. Mais seulement un reste du peuple hébreu, je le répète encore une fois, seulement un reste, ça s'applique à l'Église aussi, un reste qui a tenu jusqu'au bout, a atteint la terre promise. Et seulement un reste du peuple hébreu, seulement la deuxième génération, sous la direction de Josué, qui a traversé le Jourdain pour atteindre la première ville de la terre promise, Jéricho. Nous ne nous contentons pas de contempler la croix comme les Juifs ont fait quand ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Ça, c'est la contemplation de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et toutes les églises le font. Le Seigneur nous demande plus. Et c'est ça qui fait de nous un reste qui ira jusqu'au bout. C'est porter notre croix avec joie. C'est traverser le Jourdain. Ce n'est pas, c'est pas donné à tout le monde. C'est avec un désir du cœur que nous pourrons aller jusqu'au bout. Je voudrais lire avec vous ce passage dans Josué, chapitre 3, versets 9 à 17. Et j'ai mis devant vous en gras, le peuple traverse le Jourdain en face de Jéricho. Le Seigneur Dieu a ouvert la mer Rouge pour le peuple. Mais quand il a traversé, il leur demande, vous aussi traversez le Jourdain. Donc il y a un acte, une liberté, une conscience, un choix à faire dans la vie. De dire, je veux te suivre, Seigneur, et ne pas nous contenter de rester, oh, tout ce qui va arriver, c'est le Seigneur, de toute façon, c'est écrit. Le peuple quitte le camp pour traverser le Jourdain. Donc, c'est bien une décision de quitter le camp pour traverser le Jourdain. Et ça, il fallait la prendre. C'est aussi, nous devons prendre une décision dans notre vie. Les prêtres qui portent le coffre de l'alliance du Seigneur marchent devant. C'est l'époque de la récolte de l'orge. À ce moment de l'année, le Jourdain déborde. Mais dès que les porteurs du coffre arrivent au Jourdain et mettent les pieds dans l'eau, l'eau qui vient du haut du fleuve s'arrête comme s'il y avait un barrage. Elle est arrêtée sur une grande distance, à partir de la ville d'Adam, qui est proche de Sartan. L'eau qui va vers la mer morte s'arrête de couler. Et le peuple traverse le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portent le coffre de l'alliance du Seigneur s'arrêtent sur la terre sèche, au milieu du fleuve. Pendant ce temps, tous les Israélites passent sur un chemin sec et les prêtres restent là jusqu'à ce que tout le peuple finisse de traverser le Jourdain. C'est dans ce Jourdain que Jean baptise. Et c'est dans ce Jourdain, à travers ce Jourdain, que Dieu a demandé au peuple de traverser. S'il n'avait pas traversé, il resterait toujours de l'autre côté. Dieu prépare beaucoup de choses pour nous. Est-ce que nous arrive de décider, de prendre une décision, de suivre le Seigneur? Si nous attendons, nous resterons toujours de l'autre bord, nous ne serons jamais dans la terre promise, et je pense qu'il faut être conscient de cela. Le Jourdain. Que veut dire le Jourdain? En arabe, c'est Nahr al-Ordon, qui veut dire descendre. Descendre. Le Jourdain veut dire descendre. J'utilise le mot arabe parce que c'est une langue cousine de l'hébreu, sœur de l'araméen, qui veut dire descendre. Il y a une descente. Il y a une mort. En hébreu, le Jourdain veut dire la rivière de la peine et du jugement. N'est-ce pas le message de la croix? Encore une fois, traverser le Jourdain, c'est pas seulement contempler la croix, mais accepter que cette croix fasse en œuvre en moi de brisement, de transformation, de dépouillement, pour que je sois préparé à l'image du Seigneur, pour que je puisse le rejoindre. Le Jourdain se dresse comme un lieu de descente, de mort, de peine, de jugement, mais tout cela ouvre la porte à la vie. C'est la mort et la résurrection du Seigneur. Le Seigneur, en quittant Nazareth, se dirige vers une autre région, vers le sud, la Judée. C'est là qu'il va se faire baptiser, dans la Judée, près de Jéricho. Où Jean baptisait dans le Jourdain. Et Judée veut dire quoi? Eh bien, la Judée veut dire, il sera loué, louange. On part des ténèbres, on part des difficultés, on part des souffrances de la vie, où nous sommes étrangers. Et quand on rencontre le Seigneur, il nous mène vers la joie. Mais il faut l'accompagner. Il faut être avec lui. Il nous mène vers une région où nous avons déjà la victoire. Jéricho se trouve à 8 km du Jourdain, dans cette rivière, au baptisé Jean-Baptiste. Et à 28 km de Jérusalem. Ce n'est pas à Jéricho où se passait le baptême. La Bible nous dit près de Jéricho. C'est-à-dire à 8 km. C'est un peu plus loin que Jérusalem, 28 km. Comme si, en fait, le Seigneur nous dit, je vous emmène, je vous libère de Nazareth et de la Galilée, où rien ne va, vous êtes triste, vous tournez en rond. En chemin, nous allons partir ensemble vers les fruits de la croix qui va faire ça dans vous. Ceci vous prépare pour entrer à Jéricho et aussi pour vous préparer pour la grande rencontre, la Jérusalem céleste. Juste une information nous donne le plan du Seigneur pour son Église. Comme si le message voulait nous dire que le passage par le Jourdain est indispensable pour atteindre Jéricho. Il n'est pas parti directement à Jéricho, non, il faut passer par le Jourdain pour aller à Jéricho et après à Jérusalem. N'oublions pas que le Jourdain représentait notre engagement à porter notre croix. Mes frères et sœurs, si nous ne portons pas notre croix, nous n'atteindrons jamais Jéricho et jamais Jérusalem, dans le sens spirituel. Si dans ma vie, je veux le compromis entre le monde et ma vie chrétienne, je n'atteindrai jamais Jéricho, je n'atteindrai jamais Jérusalem, c'est se mentir. Je ne ferai jamais partie de ce reste qui ira à la rencontre du Seigneur. Jéricho se trouve à 140 km à peu près de la Galilée. Ça veut dire que le chemin est long. Le Seigneur touche notre cœur, mais nous dit le chemin est long pour que la croix fasse son œuvre en moi. Mais on doit être avec lui, qu'il nous fasse par cette mort et cette résurrection. D'où la question de l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, on ne pourra jamais atteindre Jéricho et Jérusalem. C'est un long chemin qui interprète le cheminement spirituel de chacun de nous, mes frères et sœurs. C'est notre vie de tous les jours, depuis le jour que nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur. Depuis le jour que nous avons décidé d'exprimer notre engagement par le baptême. Et le baptême, c'est une des deux recommandations que le Seigneur nous a laissées avec la Sainte Cène. Pour certains, ils sont encore en réflexion pour le baptême. Pour certains, il faut 140 km pour arriver à décider s'il faut se faire baptiser ou pas. Pour d'autres, moins. Pour d'autres, ils sont toujours en cours en route pour décider s'il faut se faire baptiser ou pas. Pourquoi ? Parce que nous avons utilisé notre rationalisme, encore une fois, notre cerveau. On veut tout comprendre, on veut expliquer le pourquoi et contre. Et seulement la Bible nous dit, obéissez à la parole de Dieu. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi dois-je me casser la tête à comprendre le pourquoi des choses? Il est écrit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Point. Je vais me faire baptiser. Je n'ai pas toujours compris. Quand on dit la préparation du baptême, je peux le comprendre, c'est normal de préparer le baptême. Mais quand on prépare un baptême sur des mois et des mois, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être un jour on m'expliquera. C'est une attitude de cœur. Le baptême n'est pas une option. C'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Donc c'est un acte d'obéissance au Seigneur dont le principe spirituel est indispensable pour passer de la mort à la vie. Pour passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte spirituel que la parole de Dieu appelle l'état d'homme fait. Le baptême ne sauve pas, mais le baptême est un engagement devant les puissances célestes, devant Dieu, devant les hommes, devant le diable, que cette mort et cette résurrection s'est faite dans mon cœur en accueillant le Seigneur. Le Seigneur s'est mis en route de Nazareth vers le Jourdain, vers Jean-Baptiste, pour être baptisé dans le Jourdain. Et il nous donne l'exemple comme notre modèle par excellence à suivre, puisqu'il demande à Jean, qui hésitait à le baptiser, d'obéir à la volonté divine. J'ai toujours dit, si on ne comprend pas, si on a des questions, il suffit de regarder le parcours du Seigneur. Souvent, on cherche des théologies. On va chercher des livres. On va chercher des théologiens, des savants. Je dis, regardons le parcours du Seigneur. Il est notre modèle, notre école. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il s'est fait baptiser. Pourquoi dois-je me poser la question si je dois le faire ou pas? Puisque lui-même, le modèle, l'a fait. Et il dit à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il lui dit? Je lis dans Je vais lire avec vous. Oui. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Oui, il dit non. Il avait toutes les raisons pour lui dire. Il a sorti la théologie, tout ce qu'on veut. Non, ne le fais pas. Mais maintenant, vous êtes, tu es le Seigneur, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que lui répond simplement? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Vous voyez, des fois on complique tellement les choses. Revenons aux choses simples. Regardons le parcours du Seigneur et nous avons la réponse à nos questions. À chaque fois que vous posez des questions, regardez le parcours du Seigneur et nous avons la réponse. Le lieu du baptême est près de Jéricho, qui est l'opposé de l'image de la ville de Nazareth. De la prison, le Seigneur va vers le chemin du baptême, de la mort et de la résurrection, qui lui ouvre la porte de Jéricho, qui lui ouvre la porte de Jérusalem. Donc j'ai dit Jéricho est l'opposé de l'image de la ville de Nazareth. Dans la Bible, il est écrit que Jéricho fut la première ville de terre promise qui tomba aux mains des Israélites sous les ordres du successeur de Moïse, Josué. Ça a un sens spirituel pour nous aussi. Qui est la première ville libérée par Dieu, par la puissance de Dieu quand le peuple est rentré dans la terre promise? C'est Jéricho. Et comme par hasard, c'est la ville juste après le Jourdain. C'est le fruit de la croix dans notre vie. C'est une ville libérée par... C'est une ville libérée par la main de Dieu. Jéricho veut dire, entre autres, Dieu est miséricordieux, lieu des parfums, comme par hasard. Vous voyez les fruits de la croix? Si la croix fait son œuvre en nous de transformation dans l'obéissance, Dieu m'appelle à l'obéissance, je porte des fruits et d'un seul coup je réalise ce que ça veut dire spirituellement Jéricho pour moi. De Jéricho, nous pouvons accéder à quelques kilomètres encore à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Il y a la présence de Dieu, c'est le sens spirituel. Il y a le temple qui représente la présence éternelle de Dieu. Et d'un seul coup, on voit que Jérusalem, ça veut dire la demeure de la paix. Si nous cherchons véritablement le sens de la paix, pas la paix humaine, la paix divine, il faut d'abord accepter par grâce que le Seigneur nous sorte de la Galilée, de Nazareth. Où nous sommes étrangers, nous sommes méprisés, nous souffrons, nous tournons en rond. Nous sommes offerts au Seigneur qui habite notre cœur. Le Seigneur fera une chose, il nous emmènera vers la croix. Spirituellement, c'est le sens du baptême, c'est qu'il va nous faire réaliser dans l'obéissance, dans la repentance, que nous avons besoin d'une transformation intérieure que le seul mon esprit fait en nous. Et dans l'obéissance, nous pourrons vivre cette transformation qui nous fait rentrer dans Jéricho. Nous découvrirons alors les parfums spirituels, la miséricorde de Dieu, et nous réaliserons ce que c'est réellement la paix. N'est-ce pas un message spirituel pour nous, encore une fois, cette simple information que Jésus quitte Nazareth pour aller vers le Jourdain? Par une simple information qui paraît anodine, nous la lisons tous les jours, rien d'important. Nous avons le sens spirituel et le cheminement du parcours de tout enfant de Dieu, désireux de faire partie de l'Église, épouse du Seigneur, qui ira à la rencontre de son époux et y demeurer pour l'éternité. Et soyons clairs encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai l'étiquette chrétien que je ferai partie de cette Église, épouse du Seigneur. Parce qu'il est dit, cette Église, elle doit être sainte, pure, irréprochable. Elle doit payer le prix. Il faut qu'on nous le rappelle. Tous les jours, s'il le faut. Parce qu'il y a un prix à payer. De Nazareth, où il paraît qu'il n'y a rien de bon, où tout le monde tourne en rond, Dieu nous met en route vers un lieu qui lui appartient dans ce monde. Un lieu où nous trouvons la liberté, la paix en Christ. Un lieu où Dieu est déjà vainqueur. C'est notre vie quotidienne ancrée en notre Seigneur qui a remporté le prix et qui a vaincu le monde, la chair, le diable et la mort. C'est Jéricho. En attendant de le rejoindre pour l'éternité en tant qu'Église purifiée et sanctifiée, c'est la Jérusalem céleste. N'est-ce pas le message du salut? N'est-ce pas la vocation céleste dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens? Et je vous invite à lire Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. La croix du Seigneur, mort et résurrection, est représentée par le Jourdain. C'est le sens du baptême. C'est le témoignage que nous faisons devant Dieu, devant le diable, devant les hommes et devant soi-même, que nous ne nous appartenons plus, que cette mort de cette œuvre de la croix, elle doit s'établir aussi dans ma vie. C'est cette croix qui se dresse devant tout chrétien pour nous faire passer de la mort à la vie. Et sans la vie, nous n'irons pas rejoindre le Seigneur, parce que la Bible nous dit, le Dieu est un Dieu des vivants, pas des morts. Je peux être chrétien, mais un chrétien mort. Dieu nous appelle à être des chrétiens vivants, c'est-à-dire la croix fait son œuvre en moi, dans l'obéissance. Regardons nos vies, examinons nos vies. Et si quelque chose ne nous dérange pas dans nos vies de tous les jours, et notre conscience ne nous interpelle pas, malgré qu'on soit à côté, là, mes frères et sœurs, honnêtement devant Dieu, soyons responsables, posons-nous des questions, mettons-nous à genoux. Parce que nous sommes dans la mort. Et Dieu nous appelle à la vie. Pour nous faire passer de nos défaites quotidiennes contre le péché à la victoire en Christ, c'est le seul qui a vaincu le péché. C'est un instrument spirituel, la croix, quotidien, que le Seigneur utilise par l'Esprit pour nous préparer pour la Jérusalem céleste. Ne ratons, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, c'est du fond du cœur, ne ratons pas la Jérusalem céleste. Ce n'est pas un fleuve tranquille, le Jourdain. C'est un cheminement long, rude, que seul le Seigneur peut nous aider à supporter dans la joie, dans la paix et surtout dans une victoire déjà acquise. Quand on est avec le Seigneur, nous sommes vainqueurs. Quand on est seul, nous sommes perdus et nous sommes vaincus. Ce chemin ne peut pas se faire sans notre volonté, sans notre désir sincère de le faire, sans notre remise en question journalière. Sur ce chemin se dresse sans cesse devant nous le message du Jourdain et du baptême, c'est-à-dire le message de la croix. Repentance, repentance et repentance pour expérimenter et goûter à cette saveur du pardon divin. Repentance, dépouillement, brisement et mort à soi-même, tous ensemble fonctionnent simultanément. Et au fur et à mesure que nous expérimentons le dépouillement de notre vie, le dépouillement de notre marche avec le Seigneur, la vie, avec un V majuscule, jaillira tout naturellement. Et nous rendons compte que nous n'avons rien fait. Et pourtant, la vie est là. Par notre propre vie, pas par notre propre vie, mais par la vie du Seigneur. Car il est le seul chemin, la seule vérité, et la seule et véritable vie. Notre vie quotidienne, transformée, c'est Jéricho. Mais ce n'est pas la finalité, parce que c'est la Jérusalem céleste qui nous attend. La ville libérée, la ville où Dieu est vainqueur, la ville où règne l'humilité. En effet, Jéricho, et signe d'humilité. Vous savez pourquoi? Le Seigneur est bon et tout a un sens dans la Bible, encore une fois. Il faut savoir que Jéricho est la ville la plus basse du monde. Car elle est située à environ moins de 240 mètres en dessous du niveau de la mer. N'est-ce pas un message encore d'humilité? Une ville où il y a la victoire avec Dieu et en même temps la ville la plus basse. Ça veut dire en fait l'humilité, c'est un des fruits de l'Église et du chrétien. Marc nous dit que Jésus vint de Nazareth en Galilée pour se faire baptiser par Jean dans le Jourdain. Mais là, c'est très important. Le Seigneur Jésus n'a pas demandé à Jean d'aller jusqu'où il était pour le baptiser. Il aurait pu demander à Jean, viens en Galilée me baptiser. Non, il s'est déplacé lui-même vers le Jourdain, vers Jean, pour se faire baptiser dans la mer, dans le Jourdain. Combien le roi de gloire a été humble durant son incarnation. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. De plus, quand il allait être baptisé, il s'est lui-même placé entre les pécheurs qui étaient baptisés par Jean. Il est devenu comme eux, alors que lui qui n'a pas de péché. Ça ne doit pas nous interpeller des fois quand on se prend pour quelqu'un, quelqu'une. Il allait être baptisé, il s'est lui-même placé entre les pécheurs qui étaient baptisés par Jean. Lui qui était complètement sans péché s'est mis au milieu de cette compagnie de pécheurs. Conclusion. Cette petite information qui m'a pris du temps hier, je n'ai pas eu le temps de passer à la suite. Le Seigneur peut parler par un mot, une lettre. Il suffit juste d'aimer ce qu'on fait, le faire avec un désir profond, de laisser la parole nous parler, et surtout, et c'est l'erreur qu'on fait souvent, souvent on cherche à faire parler la parole de Dieu. Non, il faut laisser la parole de Dieu nous parler. Et là, on est devant un festin, on est agréable, on est spectateur, on ne peut que remercier le Seigneur, parce qu'il peut nous parler par un mot, par une virgule. Le Seigneur est notre maître et notre modèle. Par sa prise de décision à partir de Nazareth pour le Jourdain pour se faire baptiser, il nous montre le chemin à suivre. Et en même temps, il nous délivre un message spirituel, minime certes pour nous, mais dont nous ne saisissons qu'une infime réalité, et c'est déjà suffisant. Ne nous contentons pas, mes frères et sœurs, d'une vie chrétienne pauvre, que le monde ne perçoit même pas. Nous sommes appelés à une vie chrétienne riche, suivant le chemin du Seigneur, avec un cœur sincère. Ne faisons pas les choses avec des apparences ou à la légère. Soyons responsables devant Dieu. Soyons fidèles dans les petites choses pour que nous le soyons le moment venu dans les grandes. Car celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Tenons ferme avec un cœur sincère. Dans la communion fraternelle, nous supportons les uns les autres. À tout moment de la vie, nous sommes plus faibles que son frère. Des situations, nous sommes peut-être un peu plus forts en Christ, mais des situations, nous sommes faibles. À tout moment, nous avons besoin les uns des autres. Et rappelons-nous que nous sortons tous et toutes de Nazareth, ville méprisée, délaissée et qui tourne en rond. Le Seigneur nous y a libérés. Mais le chemin est long. Raccourcissons-le par notre engagement et le désir profond de notre cœur en acceptant de passer par les eaux du Jourdain. Pas seulement une fois de notre vie. Tous les jours, il faut passer par les eaux du Jourdain. C'est-à-dire la croix fait son œuvre dans notre vie, dans notre marche. Avec une repentance sincère et renouvelée quand il le faut, pour expérimenter le pardon, le dépouillement, le brisement et la mort à nous-mêmes, c'est-à-dire avoir la vie. Nous découvrirons alors Jéricho, la vie chrétienne victorieuse en Christ, notre Seigneur, et ainsi nous préparer pour la Jérusalem céleste qui nous attend, où nous passerons l'éternité auprès de notre Dieu, le Père, et auprès de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Mettons-nous en route, mes frères et sœurs, et moi le premier, je dois me mettre en route, vers la Jérusalem céleste. Et n'oublions pas que pour y parvenir, le Jourdain, la croix, est incontournable. On ne peut pas passer à côté. Et je termine par un verset que je voyais devant vous. Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. » On a le point commun. « Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous pour nous ouvrir à la vie. » Que Dieu nous aide. Amen. Amen.